Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour l'émission des jeunes reporters européens. Vous êtes bien sûr Eau de Radio, la radio des Hautes-Garonne, 91.3. Alors avant toute chose, autour de la table sont réunis Yann, Héloïse, Ingrid, Guillaume, Claire, Emeline et Richard. Salut à tous.
Salut.
Salut David, comment ça va?
Ça va bien.
Pas mal.
Impeccable. Bon alors, aujourd'hui au sommaire de notre émission, on attaque une nouvelle fois avec Emeline qui nous rapportera un témoignage de Alex, une jeune Roumaine qui travaille avec nous à la Maison de l'Europe, Bordeaux-Aquitaine. Suivi par Richard pour la chronique culturelle qui va nous parler d'un phénomène finlandais. Ensuite, place à Claire, partie en reportage micro-trottoir au sujet de l'appartenance européenne. Puis, attaché aux ceintures, c'est Ingrid qui est aux manettes pour un voyage virtuel au sein de Budapest. Quant à moi, je me ferai le plaisir de vous faire découvrir la Géorgie au travers d'un omni, un objet musical non identifié. On continuera avec notre binôme actu. Guillaume nous présentera les news européennes directement suivies des actus insolites de Héloïse. Et enfin, Yann nous fera un portrait d'une femme, que dis-je, d'une idole, son idole, Yolanda Gigliotti. On démarre tout de suite avec Emeline.
Merci David. Alors je voulais baptiser cette chronique d'un nom qui évoquerait les filles, l'Europe, la vie. Sans grande surprise, ça a donc donné les Européennes. Donc j'ai effectué un petit tour d'usage sur Google pour vérifier que ça ne serait pas du plagiat d'utiliser ce nom-là. Et c'est là que je suis tombée sur le premier résultat de recherche. Un site light et fleuri, girly mais moderne, les Européennes. Conçu, je cite, par des femmes blanches, pour des femmes blanches.
Quoi ?
Ouais. Femmes dont le slogan est féminine mais pas féministe. Un onglet suggère également quelques partenaires, dits certifiés sans propagande gauchiste. Quelques articles société, beauté, famille. Alors le site n'a pas été alimenté depuis mai 2017, mais la page Facebook est toujours bien active. Mais mes mots ne vaudront pas ceux d'Alex pour vous dire que sur Eau de Radio, être européenne, c'est pas du tout ça. C'est plutôt chercher l'inspiration partout, parfois et peut-être même surtout hors de nos frontières. C'est fuir une stérile uniformité et c'est s'enrichir de l'autre. Et c'est à Alex maintenant.
Bonjour, je m'appelle Alexandra, mais je préfère Alex. Je viens de Roumanie et je fais 3 ans. Pour moi, c'est facile d'être une femme en Roumanie parce que je viens d'une famille très moderne. J'ai appris de mes parents que je peux être moi quand je veux. Si je veux m'exprimer, je peux faire ça. Si je veux travailler dans une boîte privée, je peux faire ça. Si je veux apprendre à... je ne sais pas, le français ou l'anglais, c'est à mon désir de l'apprendre. J'ai une relation très bonne avec mes parents parce que je considère ma mère comme une de mes meilleures amies. Et c'est la même chose avec mon père. Par exemple, on regarde des séries ensemble, on parle sur beaucoup de choses et... on a eu tout le temps une relation très bonne. J'ai déménagé au Royaume-Uni quand j'avais 19 ans parce que j'ai vu faire mes études en psychologie à l'université de Manchester. C'était plus facile d'être une femme en Angleterre parce que les Anglais ont une mentalité un peu plus moderne que les Roumains. Ils encouragent les femmes de s'exprimer et de travailler et d'être comme ils veulent. Et oui, c'était un peu plus facile de m'exprimer, de parler, de former de nouvelles relations, faire de nouveaux amis. Oui, je me sens bien, mais je passe... je passe mon temps avec beaucoup de gens, avec des gens qui viennent de différents pays de l'Europe. Mais j'ai des amis français aussi et ils sont super. Ils sont vraiment super.
Ça
assez facile pour moi de m'exprimer en anglais parce que j'ai vécu pendant 4 ans en Angleterre. Alors, j'ai les mots et l'expression nécessaires pour communiquer mes pensées et mes idées. Alors, je peux dire que oui, ce n'est pas une grande différence entre mon personnalité roumaine et mon personnalité anglaise parce que j'ai les moyens de m'exprimer. Quand je fais un parallèle entre mon personnalité roumaine, anglais ou français, je peux dire qu'en français, je n'ai pas les moyens nécessaires de m'exprimer et je crois que mon personnalité change beaucoup pour cette raison.
Merci beaucoup, Emeline. Alors toi, Richard, aujourd'hui, fini Netflix, tu nous parles de trolls et de Finlande.
Et tout à fait, pour une fois, je vais pas parler de séries télé. Donc bonjour à tous, j'ai donc décidé aujourd'hui de me concentrer sur un pays que l'on connaît mal par ses productions culturelles, la Finlande. Alors que c'est vrai que comparé à sa voisine la Suède, la Finlande n'a pas eu de super groupes de disco comme ABBA ou de super magasins de meubles slash casse-tête géant comme Ikea. Je pourrais sans doute vous parler de quelques groupes de heavy metal finlandais, mais j'ai peur de perdre le public d'O2 Radio si je me mettais à parler cuir clouté et cheveux longs. J'ai donc bravé ces clichés pour me réfugier sur la chose finlandaise la plus exportée à l'étranger et véritable symbole national. Et je ne parle même pas du jeu pour mobile Angry Birds, dont je suis sûr que je viens d'apprendre à tout le monde dans le studio, à part peut-être Guillaume, que le jeu était finlandais. Non, je viens aujourd'hui vous parler des Moomin. Alors un Moomin, c'est quoi ? Ou plutôt, c'est qui en fait ? Puisqu'il s'agit d'un troll s'appelant Moomin, héros de livres dans un premier temps, de bande dessinée par la suite, qui vit dans sa famille de trolls avec maman Moomin et papa Moomin, le tout dans la vallée des Moomin, vallée dans laquelle tout le monde semble souffrir d'un manque d'inspiration chronique en matière de prénoms. Mais ne vous imaginez pas de méchants trolls comme ceux que l'on croise dans l'œuvre de Tolkien. Ici, ce sont davantage de grosses peluches ressemblant à des hippopotames. Des trolls qui vivent dans une vallée paisible, dans une grande maison dans la nature, entourés de leurs amis tantôt humains, tantôt animaux. Les Moomins, ce sont à la base un roman publié en 1945 par l'auteur, avec un E à la fin, Tove Jansson, que je prononcerai par la suite de ma chronique Tove Jansson, et je m'excuse d'avance si jamais des Finnois écoutent ma chronique. Ce premier roman, Moomin et la grande inondation, voit la famille de trolls contrainte à déménager à la suite d'une catastrophe naturelle. Les premières bandes dessinées sont diffusées dès 1947 dans un journal finnois, Nitid, puis le journal anglais The Evening News. Leur succès explose par la suite, particulièrement en Finlande et au Japon. Si je veux continuer à vous parler de cette bande dessinée, il me faut néanmoins m'arrêter sur l'auteur des Moomin. Tove Jansson est née à Helsinki en 1914 au sein d'une famille d'artistes. À la suite d'études d'art, elle entame dans un premier temps une carrière de peintre et rencontre énormément de difficultés puisqu'elle est une femme dans un milieu d'hommes. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, traumatisée de ses conséquences sur sa famille et son entourage, elle imagine alors une histoire mettant en scène des trolls contraints de fuir leur maison. Le succès est immédiat et ceci est à la fois une bénédiction pour Tove puisqu'elle devient riche, mais aussi une malédiction car elle s'enferme dans son rôle de créatrice d'histoires pour enfants. Le succès n'étant pas son but recherché et elle aspire davantage à une vie de retraite puisqu'elle préfère vivre isolée dans une île du sud de la Finlande avec sa femme. Ces histoires de gentils trolls vivant une vie paisible au fin fond de la Finlande cachent en fait une véritable histoire plus profonde, un véritable bouillon de sentiments cuisinés par Tove Jansson, qui, de par un trait fin et épuré, parvient parfaitement à distiller les thèmes lui étant chers. Une place importante de la nature, des sentiments purs et une grande aspiration à la liberté. Le personnage même de Maman Moomin puise son inspiration dans la mère de l'auteur. Aujourd'hui, les Moomins sont gérés comme un véritable business par la famille Jansson. Une série finno-japonaise a été produite en 1990 et diffusée jusqu'en 1992, permettant de faire connaître les trolls partout dans le monde. Les Moomins continuent même de faire parler d'eux-mêmes, puisque leur dernier film, une production franco-finnoise, est sorti en 2015 et se nomme Les Moomins sur la Riviera. De plus, à la manière d'un Mickey Mouse en Floride et d'un Astérix en France, les Moomins disposent eux aussi d'un parc d'attractions, Moomin World, en Finlande, et ouvert seulement pendant l'été. Ces histoires possèdent donc une véritable résonance avec le vécu de son auteur. Des tranches de vie de troll, d'apparence simpliste et toute mignonne, s'accommodent facilement d'une double lecture. Celle d'un enfant qui s'amuse de situations et de l'humour de l'œuvre, et celle d'un adulte qui décèlera, ça et là, les thèmes inhérents au travail de Tove Jansson. Donc, du coup, je tiens à signaler, avant de finir cette chronique, que si jamais vous voulez en savoir plus sur l'auteur des Moomins, vous pouvez tout à fait consulter sa biographie sur le blog BD de Pénélope Bagieux, Les Culottés.
Merci beaucoup Richard. Alors maintenant, on va quitter le studio quelques minutes avec toi Claire pour un micro-trottoir.
Eh oui, en effet David, cette semaine je me suis baladée dans les rues de Bordeaux pour partir à la rencontre d'étudiants afin de savoir ce qu'ils pensaient de l'Europe et ce que cela représentait pour eux. Bonne écoute!
Bonjour, qu'est-ce que ça représente pour toi l'Europe?
Alors bonjour, je pense que l'Europe pour moi ça représente l'échange et l'entraide entre les pays.
Alors pour moi l'Europe c'est nécessaire, c'est le seul moyen qu'on a pour rester à flot au niveau financier et au niveau international, surtout avec l'euro. Et je trouve que sortir de l'Europe, ce serait une connerie, parce que c'est le seul moyen qu'on a d'être compétitif par rapport aux autres grandes puissances. Donc voilà.
Avoir l'Europe, ça représente tout un tas de pays qui s'entraident, qui échangent, et ça représente surtout l'histoire, une richesse incroyable et de l'amour. Je sens de l'amour. Donc voilà.
En fait, l'Europe représente plusieurs choses. Premièrement, c'est l'amour. Comme disait ma collègue, c'est la mode, l'histoire, l'art, la beauté des divers pays, l'entretien, la relation qu'ils ont les uns avec les autres, et le vin, pour la plupart, comme la France, voilà. Et j'ai envie de dire le fromage aussi, et puis voilà.
Alors, quand on me dit Europe, je pense à Erasmus, c'est un programme que j'ai fait, et qui permet à tout le monde en Europe de voyager et de rencontrer d'autres gens. Donc pour moi, l'Europe, c'est des nouvelles rencontres.
Pour moi, l'Europe, c'est déjà un continent et c'est surtout l'idée qu'on soit tous très, très différents sur un continent très, très petit. Du coup, ça permet une grande diversité, une multiculturalité, aussi une transculturalité qui fait beaucoup rêver.
Merci beaucoup, Claire. Maintenant, Ingrid pour sa chronique.
Voyage, voyage.
Le train intercité numéro 2921 en provenance de Sibiu et à destination de Budapest va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Chers collègues, chers amis, chers auditeurs, cette semaine, c'est à bord du train le plus lent de l'univers, interprété par le fameux intercité de notre SNCF nationale, que je vous invite à nouveau au voyage, à défaut de pouvoir imiter le réseau ferroviaire d'Europe de l'Est qui, à mon souvenir, ne fait pas d'annonce mais te laisse geler dans le froid sur le quai pendant de longues minutes de retard. J'espère que vous avez pris de quoi pique-niquer et un ou deux livres façon Harry Potter 7, car le trajet risque d'être long, environ une dizaine d'heures. La Roumanie est en effet réputée pour avoir des trains plus lents que ses bus, mais que voulez-vous, c'est ça aussi le voyage. La destination, elle, ne vous décevra pas. Budapest, vous connaissez peut-être déjà, c'est cette capitale européenne qui attire les jeunes et moins jeunes d'Europe et d'ailleurs chaque été, à l'occasion du Sziget, l'un des grands festivals de musique du monde. Budapest est la capitale de la Hongrie et c'est bien plus qu'un lieu de fête, même si la festoyade fait partie intégrante de la culture locale. Budapest n'est en réalité pas une, mais deux. Bouddha, d'un côté, trône fièrement sur les hauteurs de la rive ouest du fleuve qui la sépare de Pécs, regardée de haut, qui cultive son statut de quartier à la vie nocturne folle et promotrice d'une culture plus underground. Il existe un dicton hongrois qui dit « Le seul avantage de vivre à Pécs, à part que c'est moins cher, c'est la vue sur Bouddha ». Au milieu, le Danube, triomphant, n'a que faire de ses escarmouches, car il sait que c'est lui qui tient le rôle principal dans l'histoire de la ville. Il faut visiter ces deux versants pour comprendre que la Hongrie, et encore plus Budapest, peuvent être résumés en un seul mot, paradoxe. Un paradoxe entre la grandeur de l'Empire d'autrefois et la culture foisonnante d'aujourd'hui. Mais je suis loin d'être une experte sur la question, et je ne parlerai pas à la place d'un Hongrois ou d'une Hongroise mieux informée. Par contre, je peux vous conseiller de goûter au Kurtosalax, cette pâtisserie surnommée gâteau cheminée en forme de tube qui ravira les papilles des gourmands avec au choix du sucre, des noisettes et autres pépites de chocolat qui composent selon les envies cet Anka, également très populaire en Transylvanie où je l'ai découvert pour la première fois. À la fin d'une longue journée de visite passant par le château, le parlement, les nombreuses boutiques, rendez-vous dans un des Romkert, ou en anglais Ruin Bar, qui signifie « bar fait de ruines », ces lieux de sortie aménagés dans d'anciennes usines désaffectées et autres lieux atypiques. Le plus connu, le Tsimpla, vous surprendra par son dédale de salles toutes plus étranges les unes que les autres, par ses visiteurs venus des quatre coins de l'Europe, par ses boissons, entre autres l'absinthe, le tout pour un tarif minime, 400 forints par verre, soit environ un peu plus de 1 euro. Ne vous étonnez pas si l'un des employés vous propose une carotte pour la même somme. C'est la tradition et il paraît que ça évite la gueule de bois. Mais si, comme moi, malgré les carottes, vous êtes encore un peu patraque le lendemain, alors une seule solution, direction les thermes. L'un des nombreux bains de la capitale vous accueillera et vous revigorera en un rien de temps. J'ai personnellement testé les bains Zecheni, je ne sais pas si je prononce correctement, mais il en existe de nombreux autres. Eau chaude, puis eau froide, puis sauna, puis piscine, puis eau chaude, puis eau froide, etc. Rien de tel pour extraire toutes les mauvaises énergies de votre corps avant d'attaquer une nouvelle soirée d'ivresse, même si, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Le tram, les lumières, la cathédrale Saint-Étienne, le Danube, les statues, le Parlement, le château. À Budapest, c'est comme si où que vous posiez les yeux, quelque chose de magnifique se montre. Incontestablement l'une de mes préférées, elle ne cessera de vous surprendre, de vous impressionner, notamment par la taille de ces monuments qui s'affichent tous grandioses, imposants, face à nous, tout petits visiteurs. J'espère vous avoir convaincu de la beauté de Budapest. Plus que 9h56 de train avant l'arrivée. Pour vous faire patienter en douceur, rien de tel qu'une petite musique géorgienne présentée par David.
Alors, dans cette chronique, la semaine dernière, on a parlé Espagne. Aujourd'hui, on file à 5000 km de là, direction la Géorgie. Alors je dois vous dire quelque chose tout de suite, la première fois que j'ai écouté cette chanson, les premières secondes, j'étais pas emballé. Ce côté happy pop rock, c'est pas vraiment mon style. Mais au fil de la chanson, je dois te dire que je commençais à bouger la tête. Malgré un clip bizarre qui mélange des danseurs traditionnels et des jeunes tellement clichés des gents, ça marchait pas mal. Cette chanson, elle raconte l'histoire d'un garçon et d'une fille qui s'aiment, sans se l'avouer, et qui flirtent l'un avec l'autre, sans jamais faire de point plus grand que ceux d'un amour naissant. C'est alors que des gens du village tentent d'expliquer à la fille que ce garçon est le parfait candidat pour le mariage. Et forcément convaincue, la fille invite le garçon chez sa famille, qui lui offre un bon repas. Bon alors, faut garder à l'esprit que cette chanson, elle a plus d'un siècle. Et là, oui, ce que vous entendez, c'est un remix modernisé. Alors, pourquoi est-ce que je vous fais écouter cette chanson ? Parce que cette chanson, c'est un bout de Géorgie. Les passages dance tellement marqués Eurovision, l'origine même de cette chanson, les canons de voix folkloriques, les harmonies, le clip dont je vous parlais plus tôt, à toute conséquence, sa cause. L'attachement aux valeurs et au folklore traditionnel, l'attrait de la culture, disons, plus occidentale, l'influence russe même, dont l'armée occupe militairement une région de la Géorgie encore aujourd'hui, tout ça, on le sent vraiment. Alors je vous laisse encore une fois avec une citation, et cette fois-ci d'Octavio Paz. « Toute culture naît du mélange, de la rencontre, des chocs. A l'inverse, c'est de l'isolement que mère les civilisations. » Et pour finir, même si aujourd'hui je suis seul au micro, cette chronique, je n'aurais pas pu la préparer tout seul. Alors Chaco, même si je sais que tu comprendras pas un mot parmi tous ceux que je viens de dire, comme moi d'ailleurs à la première écoute de cette chanson avant que tu me la traduises, merci.
Bonjour à tous pour cette troisième chronique d'actualité européenne placée sous le signe de l'innovation. En effet, ma chronique est désormais plus longue que celle de Richard, et ceci dans un but évident de valoriser les points forts de l'émission. Et ensuite, à un moment, Héloïse prendra le relais pour la compléter en évoquant elle aussi les actualités, mais d'un point de vue beaucoup plus insolite. J'en viens maintenant à ma chronique. Que se passe-t-il en Europe en ce moment ? Je vous fais le topo. Et je commence par parler de politique internationale. Un an après l'élection de Donald Trump, qu'en est-il de ses relations avec l'Union européenne ? Il y a maintenant un peu plus d'un an, le 8 novembre 2016, Donald Trump était élu à la présidence des États-Unis avec grand bruit et grand fracas. Caractérisé par sa pratique singulière de la diplomatie, se faisant très souvent à coups de tweets, nombre de ses coups d'éclat ont visé des pays de l'Union européenne. Je vous propose de faire un petit point sur ces trois tweets les plus marquants. Adorant aborder un de ses thèmes fétiches, l'immigration, le président Trump s'était illustré le 18 février dernier en affirmant devant ses partisans que la Suède venait de subir une attaque terroriste en raison du grand nombre de migrants présents sur le territoire. par la suite, Trump n'avait pas apprécié que les journaux lui fassent remarquer que cette attaque terroriste n'avait jamais eu lieu. C'est pourquoi il avait posté le tweet suivant « Laissez le public tranquille. Le média de fake news essaye de dire que l'immigration à grande échelle en Suède fonctionne à merveille. Pas du tout !» La Suède appréciera cet argument convaincant contre sa politique migratoire. Ce n'est pas le seul exemple d'application directe de Trump dans la politique intérieure des États. Aussi, le lendemain de l'attaque terroriste de Londres du 3 juin dernier, il tweetait « Au moins 7 morts et 48 blessés dans une attaque terroriste, et le maire de Londres dit qu'il n'y a aucune raison de s'alarmer », oubliant un peu qu'il était président des États-Unis et pas en campagne électorale pour être maire de Londres. Enfin, tout récemment, le 20 octobre dernier, toujours à destination du Royaume-Uni, le président Trump a tweeté « Ça vient de tomber. Le crime au Royaume-Uni augmente de 13% annuellement au milieu de la propagation du terrorisme islamiste radical. C'est pas bon. On doit garder l'Amérique en sécurité », considérant apparemment que tous les crimes sont liés au terrorisme islamiste. On le voit donc, le président Trump semble vouloir essayer de faire de l'Union européenne une sorte d'exemple de ce qu'il ne faut pas faire aux États-Unis. Le problème, si je mets ça à l'analyse, est qu'il semble davantage s'adresser à ses électeurs en manipulant un peu les faits comme il l'entend, plutôt qu'adopter une hauteur de vue qui serait plus diplomatique et mieux adaptée à sa fonction. Peut-être pense-t-il à l'élection présidentielle de 2020, auquel cas je pense qu'il n'est pas le seul. Dans le reste de l'actualité européenne maintenant. Catalogne, quelques soutiens pour les indépendantistes catalans. Certes, aucun État ni l'Union européenne ne soutient officiellement la Catalogne comme État indépendant, mais cela n'empêche pas d'autres personnes de s'exprimer. Aussi, Marc de Messmaker, eurodéputé du parti séparatiste belge, a déclaré que le mutisme sur cette question de la Commission européenne et de la plupart des États membres est honteux, parce que cela montre que l'UE ne protège plus les droits politiques fondamentaux. À ce soutien s'ajoute celui de la Corse en France, le président de l'Assemblée de Corse, Jordi Talamoni, ayant reconnu la Catalogne comme État et ayant déclaré que « la même question se posera en France d'ici à 10 ans pour la Corse ». Rendez-vous dans 10 ans. Elle vous avait manqué, revoilà la rubrique fiscalité. Fraude, l'UE veut se doter d'une liste noire des paradis fiscaux. C'est le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, qui a souhaité l'édiction de cette liste, affirmant tenir compte du scandale des Paradise Papers. Il a déclaré vouloir que cette liste soit crédible, publiée rapidement et qu'il y ait de la fermeté. C'est-à-dire que quand une fraude fiscale est constatée, il doit y avoir des sanctions. Affaire à suivre. Et avant de laisser la parole à Héloïse, agenda culturel en Europe, aujourd'hui l'Italie, et nous partons à Salerno assister à la Luci d'Artista, littéralement en français lumière d'artiste, qui est une spectaculaire exposition d'œuvres d'art lumineuses. Chaque soir jusqu'au 21 janvier 2018, toute la ville s'anime grâce à ces installations de lumière magnifiques. C'est à voir pour peut-être comparer cet événement à la fête des Lumières de Lyon en France. C'est tout pour moi, place maintenant à Héloïse pour la rubrique Actualité insolite.
Effectivement, comme le disait Guillaume, ce cher Donald Trump nous a comblé cette année de ses tweets à la fois saugrenus et teintés d'une certaine folie. Nous aussi, Européens, nous ne sommes pas en reste lorsqu'il s'agit de fantaisie, mais la nôtre, quant à elle, est une folie passagère, passionnée et parfois engagée. Alors, voici l'actu insolite, mais surtout européenne de ces derniers jours. Non, les joueurs de bridge ne sont pas de véritables sportifs. C'est ce qu'a conclu le 23 octobre dernier la Cour de justice européenne. En effet, les magistrats du Luxembourg ont été saisis pour acquitter un recours financier au Royaume-Uni. La Fédération anglaise de joueurs de bridge réclamait un remboursement de leurs taxes lors des compétitions et une exonération de la TVA pour raisons sportives. Pour cause, une directive européenne permet des exonérations à certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport. Finalement, la justice a tranché. Même si cette discipline demande de fortes compétences de mémoire et de logique, le bridge n'est pas un sport, car il ne comporte pas de composantes physiques significatives. Puisque l'on parle de compétition sportive, dimanche dernier se déroulait en Italie la Coupe du Monde du Tiramisu. C'est dans la petite ville de Trévise, berceau du célèbre et délicieux dessert italien, que se sont affrontés plus de 700 compétiteurs, armés de leur fouet pour battre le mascarpone et d'un tamis pour saupoudrer le cacao. Finalement, c'est un Vénitien de 28 ans qui a remporté la compétition du meilleur tiramisu au monde. Tiramisu qui veut littéralement dire en italien « remonte-moi le moral ». Saviez-vous que les fleuves qui bordent nos villes européennes n'étaient pas des poubelles? Question absurde, me direz-vous. Pourtant, certains de nos concitoyens ne semblent pas être au courant. C'est ce qu'a constaté le photojournaliste suisse Stéphane Vermuth. En effet, durant le mois d'octobre, l'artiste a réalisé une série de photos se nommant « Les drôles d'objets jetés dans la Tamise ». Durant plus d'un an, le photographe a ramassé divers éléments abandonnés dans le fleuve de la capitale londonienne. Il a immortalisé cette récolte insolite en exposant chaque objet sur un fond coloré. Puis, chaque photo est légendée par une question humoristique posée au spectateur. À l'image de cette petite culotte en dentelle rouge sur fond jaune, agrémentée par l'interrogation « Mais quelle histoire se cache donc derrière ce vêtement ?» Au-delà de l'aspect humoristique, c'est surtout l'aspect écologique et engagé que l'on retiendra, car l'artiste espère une prise de conscience de la fragilité des cours d'eau en Europe et dans le monde. Continuons notre petit tour d'horizon des fleuves européens et dirigeons-nous cette fois-ci vers le fleuve Isar à Munich, chez nos amis allemands. En effet, c'est en empruntant ce fleuve à la nage que Benjamin David, un cadre munichois de 40 ans, se rend quotidiennement à son travail. Agacé par la rage des bouchons et par la sueur des transports en commun, mais surtout révolté par la pollution que dégagent les gaz d'échappement des voitures dans sa ville, ce drôle de Munichois a pris cette folle décision pour interpeller les habitants sur la pollution que tous émettent lors de la vie quotidienne. Il a voulu prouver qu'il suffit d'être inventif pour réduire la contamination de l'air. Loin d'être fou, Benjamin David a plus d'un tour dans son grand sac rouge étanche. Celui-ci sert autant à protéger son ordinateur et ses affaires qu'à se reposer grâce à sa flottaison telle une bouée. Cet homme grenouille confie mettre moins de temps à parcourir 2 km à la nage qu'en voiture. Il s'appuie surtout sur la force du courant qui l'emmène à bon port en 15 minutes s'il nage et 25 minutes s'il se laisse flotter. Reste à trouver un autre moyen pour le trajet du retour. L'hiver étant là, enfin, rend la pratique quasi impossible. Si vous souhaitez imiter ce cher David, eh bien, je vous le déconseille. Car la Garonne est un fleuve dangereux et turbulent à cause des forts courants qui la bercent. La baignade y est donc interdite sous peine d'une amende de la brigade fluviale. Ce sera tout pour moi et pour l'actu insolite mais surtout européenne de ces derniers jours. Je rends donc la parole à David, notre présentateur.
Merci beaucoup Héloïse. Alors, à toi Yann, tu voulais nous parler de quelqu'un qui te tient à cœur, c'est ça ?
Oui, je ne résiste pas à la tentation de consacrer mon premier portrait à l'une de mes plus grandes obsessions, Dalida. Mais pas n'importe quelle Dalida, celle des années 60. Lorsque je pense Dalida, je ne pense pas à Laissez-moi danser ou Parole, 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 mais à la Dalida presque innocente et pourtant à la fois déjà bien concernée. À la Dalida de 30 ans qui murmure l'amour comme jamais encore, qui hurle la souffrance comme un oiseau blessé qui ne sait plus chanter, qui attend le retour de l'absent comme une heure arrêtée au cadran d'une vie, qui s'émerveille d'aimer un soir où l'absence est trop lourde à porter. Un portrait, ou plutôt un hommage, à une voix, un cri, où résonne une époque. Une époque où Dalida est encore exotique dans la France de De Gaulle, et où pourtant ses chants apparaissent universels et font sonner l'amour comme une vérité. Si l'amour est enfermé quelque part, je sais qu'il se trouve sur une scène, boulevard des Capucines, un soir de 1967, à Paris. Cette Italienne si française qui s'étonne à chaque fois de l'amour lorsqu'il lui est permis, et qui vibre telle une ombre qui pleure sans savoir où aller, tel un jour où l'espoir ne semble plus qu'un souvenir. Ce n'est ainsi pas tant Dalida qui demeure pour la postérité, mais à travers elle, la preuve de l'amour absolu. Dalida, vous le comprenez, est obsédée, elle aussi. Et faire son portrait, c'est peut-être bien faire celui de l'éloge d'aimer. Dalida des années 60, c'est l'espoir, toujours, toujours, toujours. Comme une religion, comme un poids qu'elle tient du bout des lèvres et qu'elle nous livre sans hésitation, sans transiger avec la sincérité et la passion. Ces chansons vous portent dans l'attente des longs dimanches, s'il en existe des cours. Elles perdurent l'espérance, elles épousent vos souffrances et expriment les joies du baiser le plus important. Et si l'on doit remercier Dalida, c'est bien de nous offrir une certitude, celle du son du paradis qui ne peut être que celui des gondoliers implorés de se souvenir qu'ils chantaient. La 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 barcarolle pour lui et moi.
Merci beaucoup Yann pour ce portrait très touchant. Alors malheureusement, on arrive au terme de notre émission, donc je tenais à remercier les journalistes de l'avoir préparé. Merci à Philippe et Julien en régie, et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve chaque mardi à 12h30, de 12h30 à 13h, pardon, et ou bien en rediffusion le soir même à 18h30. Vous pouvez aussi réécouter l'émission en podcast sur le site de Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, sur la fréquence 91.3. On vous souhaite une belle après-midi.